J'aimerais parler sur demeurer ensemble dans le psaume 133 et le verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. On a tous tendance à vouloir toujours s'en sortir tout seul par nos propres moyens, essayer de trouver des solutions. Et puis souvent, on n'écoute pas les conseils, on n'en fait qu'à notre tête, qu'à notre esprit. Mais on doit reconnaître qu'on a besoin les uns des autres et on a besoin de demeurer ensemble. Nous sommes tous créés avec le besoin des autres. Dès que Adam a été créé, la Bible dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fallait que Adam soit accompagné. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit que Adam a cherché tout d'abord la compagnie auprès des animaux, mais il n'a pas trouvé l'équivalent. Parce que c'est bien d'avoir un chien, c'est bien d'avoir un chat, mais ce n'est pas pareil d'avoir un vis-à-vis. Et Dieu l'a fait plonger dans un profond sommeil. Et après une de ses côtes, il a formé Ève. Et quand Adam est sorti de son sommeil, il a trouvé un vis-à-vis qui communique, qui parle avec lui, qui le comprend. Et ça a tout changé dans sa vie. Être ensemble. Maintenant, il y a une bénédiction à être ensemble. Ce texte dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, on pourrait dire pour des frères et des sœurs, de demeurer ensemble. Voilà, la bénédiction est envoyée quand on demeure ensemble. Remarquez ce petit verbe, demeurer. Il ne s'agit pas juste d'être ensemble, mais demeurer dans un même esprit. Quand on reste longtemps avec quelqu'un, on connaît mieux la personne et on peut l'apprécier. Et dans l'Église, c'est ça. On apprend à se connaître, on apprend à être ensemble et à demeurer ensemble. Alors j'aimerais voir quelques exemples des premiers chrétiens, justement dans les Actes des Apôtres, comment ils vivaient ensemble. Le premier exemple, c'est dans Actes 2, verset 1. Vous allez voir qu'ils demeuraient ensemble et ils vivaient des temps forts ensemble. Actes chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous avez remarqué ce petit mot « ensemble ». Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et on voit qu'ils ont persévéré. Parce que quand Jésus est apparu, après sa résurrection, à plus de 500 personnes, et qu'il a expliqué les choses du royaume de Dieu, et qu'il a dit « vous persévérerez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ». Il ne savait pas combien de temps il fallait persévérer, mais il avait dit « vous ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ». Nous savons qu'ils ont dû persévérer 10 jours. Entre l'ascension, quand Jésus est monté au ciel, et le moment où il a envoyé le Saint-Esprit du ciel, il y a 10 jours qui se sont passés. Mais sur ces 10 jours, entre les 500 qui avaient entendu le message et ceux qui étaient là le 10e jour, il y a eu une sorte de décroissance, puisqu'ils étaient 500 au début et ils se sont retrouvés juste à 120 dans la chambre haute. Ça fait que même la majorité, 380, avait disparu. Ces 380, en fait, ils n'ont pas vécu ce verset de demeurer ensemble. Mais le psaume 133 disait, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc ils ont été ensemble un temps, mais ils n'ont pas demeuré. Et ce que nous devons apprendre, c'est passer ce cap, non seulement être ensemble, c'est une bonne chose, mais de demeurer dans le temps, et même si les jours passent, même si les jours s'enchaînent, eh bien, de garder cette confiance que Dieu va agir et d'être convaincu que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction quand on demeure ensemble. En tout cas, les 120 étaient de cet avis et eux, ils n'ont pas manqué le jour J parce qu'ils ont demeuré ensemble le jour de la Pentecôte, ils étaient vraiment ensemble et ils ont été bénis, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont mis à parler en d'autres langues. Les autres n'ont pas vécu ce temps fort parce qu'ils n'ont pas demeuré ensemble. La consigne était simple. Jésus avait dit « Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Tout le monde pouvait le faire. Il suffisait d'obéir. Mais il y a toujours des croyants qui se faufilent, des gens pour dire « c'est pas, faut pas être si rigoureux, on peut se permettre un peu de relâche. » Et finalement, ils font autrement. On a des exemples malheureux dans la parole de Dieu. On a l'exemple de la femme de Lot. Elle avait une consigne avec son mari, Lot, très claire. Quittez la ville et ne regardez pas en arrière. C'était facile à faire, il suffisait d'obéir. Et pourtant, la femme de Lot s'est retournée à regarder en arrière et la Bible dit qu'elle a été transformée en statue de sel. Donc il y a toujours des esprits indépendants, des gens qui ne suivent pas les consignes, qui veulent faire à leur manière, ils n'écoutent pas les conseils de Dieu. Jésus avait dit, vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que... Et il fallait appliquer la parole de Dieu, il ne fallait pas user de la raison peut-être, ou du découragement, de se dire, mais ça fait 5 jours qu'on est là, il ne se passe rien, ça fait 6 jours, ça fait 9 jours qu'on est là, il ne se passe rien. Et à ce moment-là, ils ont abandonné. Donc ils n'ont pas appliqué à la lettre la pensée de Dieu. Seuls ceux qui ont tenu les 10 jours ont été remplis du Saint-Esprit. Alors nous sommes bénis au contact des autres parce qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu, c'est-à-dire une concentration de croyants qui étaient là dans le même lieu, dans la chambre haute. Et quand on est rassemblés, il y a déjà un amour fraternel qui nous unit, qui nous relie les uns aux autres. Donc ça, c'est extraordinaire. Nous, presque on en a perdu la saveur, tellement on est habitué à se côtoyer les uns les autres. Mais une nouvelle personne qui rentre dans l'Église, elle est touchée de voir l'amour fraternel. Alors pour nous, ça devient un petit peu comme une routine. Mais en réalité, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort. On ne s'en rend plus vraiment compte avec le temps. Psaume 92, verset 13. « Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Où est-ce qu'ils sont ?« Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. » Voilà les justes qui ont décidé de demeurer ensemble dans le même lieu. Et eux, ils vont prospérer. Eux, ils vont être plantés dans la maison de Dieu. Eux, ils vont s'élever comme le cèdre du Liban. Et ils vont croître comme le palmier. Le palmier, nous savons sa particularité. Vous voyez, c'est deux arbres complètement différents. Le palmier, quand il y a une tempête, il penche jusqu'à terre. Et puis, une fois la tempête passée, il se redresse. Il a des racines propres à tenir dans la tempête, mais il est assez souple pour se plier. Mais néanmoins, il se relève toujours. Et ça, ça nous parle du croyant quand il est dans la main de Dieu. On passe par une tempête, on peut être jusqu'à terre, mais grâce aux racines du palmier, le croyant, comme le palmier, il se redresse. Il ne rompt pas. Et puis, le cèdre, lui, il est très robuste, très résistant, c'est du très bon bois pour faire des constructions. Il est très stable. C'est très solide. Ces deux arbres sont les images du croyant. Ils peuvent être à terre, mais ils se relèvent, et puis ils ont des racines solides. Certains ne cherchent pas à prendre racine dans l'endroit où ils sont plantés. Pourtant, le texte dit « plantés dans la maison de l'Éternel ». C'est là que nous devons chercher à étendre nos racines. Et certains, ils n'ont pas de lieu. Et c'est pareil, si un arbre, vous le changez d'endroit tous les ans, si vous le changez d'endroit tous les 6 mois, vous le déracinez, vous le replantez, vous le déracinez, vous le replantez. Mais cet arbre, il ne va pas prospérer, il va être fragile, il ne va pas pouvoir être stable, être fort. Ainsi, ceux qui vivent ensemble, mais je dirais qui demeurent ensemble, plantés dans la maison de l'Éternel, eux, ils vont développer des racines profondes et solides, et ça va durer dans le temps. Mais il y a toujours des personnes insatisfaites, des personnes qui ne demeurent pas plantées. Alors ils se plantent là, ils se plantent ailleurs, ils reviennent là-bas, ils se plantent ici, mais ils ne sont pas plantés réellement, solidement dans la maison de l'Éternel. Hébreux 10, 25 dit ceci, « N'abandonnons pas notre assemblée. » Ce sont ceux qui sont déracinés. Ils se déracinent, ils vont d'église en église. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça existait déjà à l'époque du Nouveau Testament. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant que vous voyez s'approcher le jour. Donc, premier point, ensemble, on vit des temps bénis. Quand on demeure ensemble, il y a la bénédiction qui vient. Là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Deuxième élément qu'on trouve un petit peu plus loin, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 46. Voilà l'église du début, donc on est vraiment au début, c'est l'église de Jérusalem, acte 2, première église, premier temps où ils sont ensemble. Et regardez acte 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, encore une fois. Vous voyez que c'était comme une marque qui les accompagnait, un signe. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les disciples, en fait, avaient bien compris ce principe que nous avons besoin les uns des autres pour avancer. La nécessité de se retrouver régulièrement, regardez l'assiduité, c'est-à-dire régularité, ponctualité, on vient dans la présence de Dieu, on est assidu. Bien, qu'est-ce qui se passe quand on vient ensemble dans la présence de Dieu? En fait, on vient recharger nos batteries spirituelles. C'est un petit peu comme le téléphone qui se décharge naturellement, tout le temps il se décharge. Alors quand il se décharge, au bout d'un moment, on le branche pour qu'il reprenne 100% de batterie. Eh bien, quand on vient planter dans la maison de Dieu, on vient se charger spirituellement, se ressourcer spirituellement, et à ce moment-là, on est fortifié, et c'est bon de passer ces temps ensemble, c'est bon d'être chargé, notre batterie spirituelle est rechargée. On a tous des moments difficiles, alors on a peut-être dans la semaine eu des obstacles, un patron qui s'est mis en colère, on a subi des injustices, des moments difficiles, mais on sait qu'on va se retrouver ensemble. On sait qu'il y a les frères, il y a les sœurs, et on va se fortifier. D'ailleurs, j'ai remarqué que l'expression les uns les autres, elle revient des dizaines de fois dans la Bible, mais jamais pour du négatif. C'est toujours pour vous encourager, exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, fortifiez-vous les uns les autres. Et tout cela, c'est ce que nous devons faire dans l'Église. Ensemble, quand on est ensemble, on peut aller plus loin. Psaume 84, verset 7. Lorsqu'ils traversent, ce sont donc ici des croyants, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, remarquez que c'est au pluriel. Ils, au pluriel, ils sont ensemble. Ils, c'est les croyants, c'est le peuple de Dieu. Ils, au pluriel, ils traversent la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs. Ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ce texte, il montre qu'à plusieurs, on peut traverser des vallées de Baca. Mais tout seul, c'est plus difficile. Tout seul, peut-être, il aurait été découragé, il serait resté dans la vallée de Baca. Mais comme ils étaient ensemble, ils étaient un soutien l'un pour l'autre. Et puis, au sein de cette vallée, Dieu crée des sources. La force de ces bien-aimés va augmenter pendant la marche. Remarquez que la force spirituelle n'augmente pas quand vous êtes inactif, quand vous ne faites rien pour le Seigneur, quand vous êtes passif. La force augmente pendant la marche. Ça veut dire qu'ils avancent pour l'œuvre de Dieu, ils avancent dans les choses de Dieu, et en même temps, leur force spirituelle va être renouvelée. Quelquefois, nous pensons à tort, oh là là, Je ne vais pas venir à l'église, comme ça je vais me reposer. Mais c'est une erreur. En réalité, c'est en servant le Seigneur, en venant dans sa présence, en étant planté dans la maison de Dieu, qu'on est fortifié et qu'on est renouvelé pendant la marche. Quand un membre souffre, les autres membres souffrent avec lui. Quand un membre se réjouit, les autres membres se réjouissent avec lui. Il y a donc une communion qui se fait dans le groupe. Et quand on est ensemble, il y a une force. Peut-être vous êtes découragé, vous êtes abattu, mais vous voyez un frère, vous voyez une sœur, et cela vous fortifie. Vous avez envie de tout arrêter, vous connaissez le découragement, vous dites « c'est plus la peine, j'abandonne ». Mais un frère, une sœur vient vous donner une parole d'encouragement et vous reprenez la route. Donc les premiers disciples, ils avaient besoin les uns des autres, et je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose. On peut aller toujours plus loin. Regardez comment Jésus a fait. Il n'a pas envoyé les disciples tout seul, il en avait 12. Il aurait pu envoyer les 12 dans 12 directions différentes. Mais il a dit non, on va faire des équipes de 2. Comme ça, si l'un est découragé, bien l'autre sera une source d'encouragement et vice-versa. Et donc, Jésus a fait des équipes de 2 et il n'a jamais envoyé un disciple tout seul, mais il a toujours prévu 2 personnes. Comme ça, s'il y a des persécutions, s'il y a des rejets, s'il y a de l'opposition, eh bien, à 2, on est plus fort que tout seul. Troisième passage où on voit qu'ils étaient ensemble, toujours dans les Actes, au chapitre 4 et au verset 24. Ici, il est dit « Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. » Et là, c'est la prière. Ils dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit et par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance et en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le don de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, voilà, tous ensemble, là, plantés dans la maison de Dieu, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà, c'est un bel exemple de la prière collective. Ensemble, nous pouvons prier pour les besoins. Et il y a une réelle puissance qui se dégage quand on prie tous ensemble, dans le même objectif, dans la même pensée. On est menacé, il y a des ennemis autour de nous. Ici, dans le contexte, c'était l'opposition à la croissance de l'Église. Il y avait donc Ponce Pilate, c'était le procurateur romain, il y avait le roi Hérode, c'était celui qui régnait sur les Juifs, et ils ont fait alliance contre les croyants, contre les chrétiens. Et ensemble, ils n'ont pas craint cette menace, mais ensemble, ils ont été audacieux. Voyez, dans une situation où on se sent acculé, on pourrait dire « Seigneur, protège-nous, Seigneur, viens à notre secours, Seigneur, garde-nous dans ta main ». Ils n'ont pas eu ce type de prière, ils étaient ensemble et ils ont dit « Mais Seigneur, étends encore ta main et qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des guérisons par le nom de ton saint serviteur Jésus ». C'est une prière audacieuse. Peut-être tout seuls, ils n'auraient pas osé, mais parce qu'ils étaient ensemble, ils ont été plus audacieux. Et quand on est ensemble, c'est la foi qui se communique. On pourrait dire que la foi s'additionne, la foi de chacun devient forte, comme pour déplacer des montagnes. Et peut-être ensemble, on dira, on n'y arrivera pas, mais avec l'équipe, avec le groupe, alors c'est possible. Vous avez l'exemple, un jour, d'un paralytique qui ne pouvait rien faire pour s'en sortir, donc il ne pouvait pas marcher ni se déplacer pour aller vers Jésus. Mais il y a 4 personnes qui se sont associées pour transporter ce paralytique et l'amener jusqu'au Seigneur. 4 personnes se sont mises ensemble. Et ces 4 personnes ne se sont pas laissées décourager parce que, arrivées devant l'endroit où était Jésus, on ne pouvait pas passer. Il y avait trop de monde, la porte était bloquée, mais ils ne se sont pas découragés parce qu'ensemble, ils ont eu des idées. Ensemble, ils ont réfléchi, mais comment on peut faire? Ils ont prié, Seigneur, inspire-nous, et ils ont pensé au toit. Ensemble, les choses peut-être impossibles, parce que s'ils avaient été tout seuls, c'est pas possible, on rentre à la maison. Mais ensemble, ils ont eu des idées et ils ont eu de l'audace. Un petit peu comme ce groupe de croyants. Donc, ils ont eu de l'audace, ils sont montés sur le toit, ils ont fait une ouverture, ils ont descendu le paralytique devant Jésus et Jésus a pu prier pour le paralytique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient quatre. C'est pour ça que quand nous nous associons dans la prière à plusieurs, il y a une force. Mais c'est écrit dans Matthieu 18, 19. Il y a une force dans la prière collective. Je vous dis encore, et c'est Jésus qui parle, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez le rassemblement des forces. Alors on est plus que deux. Et si nous nous accordons, eh bien, il y a une force collective. Ils élevèrent la voix tous ensemble. Ils se sont associés collectivement pour le même sujet, pour les mêmes besoins. Et quand vous priez, à la fois vous faites monter vers Dieu votre prière, mais à la fois vous êtes fortifié dans la présence de Dieu. Pensez peut-être que vous n'avez plus de force. On ne sait pas quel était l'état de tous ces croyants, mais en tout cas, dans la présence de Dieu, à la fin du texte, c'est dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Peut-être qu'il y en a qui étaient un peu abattus ou découragés, ou peut-être c'était dur, mais le fait d'avoir prié ensemble, il y a une onction particulière et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il y a quand même une bénédiction à prier ensemble, à œuvrer ensemble, à avancer ensemble. On le voit dans le domaine de la nature, avec les séquoias, qui sont les arbres parmi les plus grands du monde, plus de 100 mètres de haut. Et ils ont une résistance à toute épreuve. Ils peuvent vivre jusqu'à 3000 ans. Ce sont des arbres extraordinaires. Mais ce qui est particulier chez ces arbres immenses, c'est leurs racines. Leurs racines, en fait, sont très peu profondes. Elles dépassent rarement 90 cm sous le sol. Mais par contre, elles s'étendent sur des dizaines de mètres autour de ces arbres. Et la particularité des séquoias, parce qu'on peut se demander, ce n'est pas des grosses racines, c'est des petites racines qui font 2 ou 3 cm de diamètre. Mais comment font-ils pour tenir debout? Eh bien, en fait, c'est là l'ingéniosité de la nature. Ils ont développé un système de racines souterrains qui fait que les séquoias sont reliés entre eux par les racines. Et ce qui fait que quand ça souffle, quand il y a des tempêtes, eh bien, ils tiennent bon les uns aux autres, attachés les uns aux autres, ce qui fait qu'ils ont un système de racines qui est excellent. C'est la nature. Mais la nature nous parle des choses spirituelles. Parce que nous, on est des chrétiens, mais si on a des racines qui sont reliées les uns aux autres, on sera plus fort dans la tempête. On sera soutenu les uns par les autres. Et quand un est plus faible, eh bien l'autre, le soutien, il est plus fort. Et comme cela, eh bien la tempête passe. Et ainsi, on demeure dans la présence de Dieu, debout pour le Seigneur. J'arrive au chapitre 5. On voit qu'ils persévèrent toujours tous ensemble au verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais tout le peuple les louait hautement. Un petit peu avant, il y a eu un miracle. Alors que Pierre et Jean, donc c'est dans Actes 3, Pierre et Jean se rendaient au temple, il y avait un impotent qui était là, et Pierre a guéri au nom de Jésus, il a guéri cet impotent. Mais cette guérison a suscité la jalousie des Juifs et ils ont commencé à persécuter Pierre et Jean et les autres apôtres. Donc ils ont convoqué Pierre et Jean qui avaient fait le miracle et ils ont réuni le Sanhédrin qui est le conseil religieux juif en leur donnant cet ordre, et c'est le chapitre précédent, c'est vous avez l'interdiction de parler de quoi que ce soit dans le nom de Jésus. Bon, il y avait de quoi être un peu découragé parce qu'en fait, ils avaient fait l'œuvre de Dieu, ils avaient prié pour un malade. Donc imaginez, vous témoignez, vous priez pour quelqu'un, il est guéri, vous témoignez, vous voyez une conversion, et puis on vous dit maintenant, vous arrêtez, interdiction de parler du nom de Jésus. Il y a de quoi être découragé, abattu. Mais ils ont décidé de se retrouver tous ensemble, verset 12, ils étaient tous ensemble au temple. Et ensemble, ils ont retrouvé les autres apôtres. 1 Thessaloniciens 5:11 nous montre qu'ensemble, il se passe des choses. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Ensemble, ils se sont encouragés. Il n'y avait que les deux qui avaient été convoqués. Mais avec les autres, maintenant, ils sont tous les apôtres. Et en fait, d'être ensemble avec tout le groupe, ça les a exhortés, ça les a édifiés, vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ils ont été donc renouvelés, édifiés, fortifiés. Et c'est ça le rôle de l'Église, parce qu'il y a suffisamment de paroles décourageantes dans le monde, avec les infos, la guerre, les malheurs. Si l'Église n'a pas des paroles pour exhorter, encourager, édifier, ça va être encore plus décourageant. Mais les frères et sœurs vont reprendre courage avec les paroles de Dieu. Acte 28, verset 15, voilà Paul qui avait un petit peu perdu courage. Il avait fait un voyage difficile. Acte 28, on est à la fin des Actes des Apôtres. Il avait eu cette fameuse tempête où il avait fait naufrage. Il savait qu'il allait à Rome pour comparaître devant l'empereur. C'était un petit peu décourageant. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Et la fin du verset dit, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Il avait besoin d'être encouragé. Il passait par un moment de désert, il passait par un moment de lassitude, il passait par un moment d'incompréhension, les choses tournaient mal. Mais le fait d'être ensemble, ça lui a permis de reprendre courage. Et puis je termine avec un dernier exemple, c'est Actes 15, 24. Ensemble, on surmonte les problèmes compliqués. Acte 15, 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble. Ah, ils se sont réunis tous ensemble pour parler de la situation, voir le problème et trouver des solutions. Choisir des délégués et vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ils étaient donc ensemble, ils ont prié, l'Esprit les a inspirés, de ne vous imposer aucune autre charge que ce qui est nécessaire, à savoir vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de la débauche, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Ensemble, pourquoi ? Parce que certains chrétiens de l'Église de Judée avait envoyé des gens à Antioche pour dire « Si vous ne vous faites pas circoncire, vous ne serez pas sauvés. » Donc, ils revenaient en arrière, ils revenaient à la loi, et certains chrétiens mal affermis étaient perturbés. Donc, il y a eu cette grande réunion, c'est tout le chapitre 15 des Actes des Apôtres, une grande réunion à Jérusalem, avec les anciens, avec les responsables, les apôtres étaient là aussi. Donc, l'Église s'est réunie, ils ont traité le problème. Les apôtres, en fait, ont statué ensemble et ils ont décrété que non, il n'était pas nécessaire de revenir à la circoncision pour être sauvé parce que Jésus a accompli toute la loi, donc on ne va pas imposer aux non-juifs la circoncision. Ils se convertissent, du moment qu'ils sont convertis, sont baptisés, ils font partie de l'Église, il n'y a pas à revenir sous la loi. Et ils ont écrit ce courrier qu'on a lu, ils étaient ensemble, ils ont été inspirés par l'Esprit et ils ont trouvé la solution à leurs problèmes. Alors, les problèmes de l'Église de l'époque sont certainement différents aujourd'hui, mais il y aura toujours des problèmes. Mais s'il y a toujours des problèmes, ensemble, nous pouvons toujours trouver des solutions avec l'Esprit, le secours de Dieu. Il y aura toujours des frères et sœurs qui vont être inspirés. Il y aura toujours des paroles par l'Esprit qui vont être donnés. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il y avait des prophètes, il y avait des personnes sensibles qui ont reçu la pensée de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous a donné nos frères, nos sœurs, et ils sont là pour nous apprendre à grandir ensemble. On va prier quelques instants. On a vu en fait l'importance, la nécessité de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, malgré les hauts, malgré les bas, je dirais que c'est une nécessité, c'est un impératif. Un chrétien qui ne demeure pas avec ses frères, ses sœurs, qui s'éloigne, qui préfère à distance suivre les choses, peut-être sur Internet, ou de dire « moi, je n'ai pas besoin d'église physique, moi, je me contente d'être à distance. » Bien, c'est ensemble, dans le rassemblement du peuple de Dieu, qu'est la bénédiction. Et parfois, nous faisons fausse route. Certains sont déçus, ils sont déçus de l'Église parce qu'ils ont été blessés, ils sont déçus par rapport aux autres, ils sont déçus par rapport à leur famille, ils sont déçus par rapport à leur conjoint. Mais Dieu a voulu que nous soyons ensemble et surtout que nous demeurions ensemble. Pas simplement être ensemble une fois, mais dans la durée, persévérer. Et rappelez-vous, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Merci Seigneur pour ces paroles qui sont réelles, qui sont spirituelles, qui nous montrent que ton plan, Seigneur, c'est que l'Église ne soit pas dispersée, chacun dans son coin, faisant sa volonté, mais que nous puissions demeurer ensemble dans la même vision, dans le même travail pour ta gloire, dans ces temps de prière que nous vivons ensemble, dans ces temps, Seigneur, où nous cherchons ta face. Là, tu envoies ta bénédiction, là, tu envoies des solutions, là, tu envoies, Seigneur, par ta grâce, des renouvellements spirituels. Là, nous pouvons recharger nos batteries spirituelles. Oui, tous ensemble, Seigneur, alors que nous passons par des combats, alors qu'il y a peut-être un frère ou une sœur qui est en difficulté, eh bien, tous ensemble, nous venons nous ressourcer, nous renouveler, comme Paul qui a pu reprendre courage en voyant ses frères qui venaient à sa rencontre. Eh bien, nous voulons reprendre courage ensemble dans ta présence et dans le nom de Jésus. Amen.